Merci Emilia Kousseva. Donc je vous propose maintenant qu'on passe à une séance peut-être de 10 à 15 minutes de questions. Si vous voulez, après on pourra aller faire une pause, boire un café. Je ne sais pas s'il y a déjà des personnes qui veulent réagir ou intervenir sur les deux précédentes, les deux premières interventions. Oui. Alors, Sylvain, est-ce qu'on pourrait avoir un micro ? En fait, comme on enregistre toute la journée d'études, on va vous donner un micro pour que votre question soit tout de suite enregistrée.
Bonjour. Je voulais avoir quelques précisions quant au déroulement des entretiens, à leur durée, à leur contexte. À un moment, vous avez très justement parlé de la présence du technicien, mais au-delà, est-ce que vous pourriez nous préciser également le choix des entretiens ? Est-ce que vous avez refusé certains témoins ? Est-ce que les témoins ont réécouté ensuite ? Etc. Merci.
Je peux, ouais. Qui veut répondre ? Anne-Marie, tu veux répondre ?
Je répondrai d'abord à la question, la plus facile. Nous n'avons refusé aucun entretien. En ce qui me concerne, j'ai coordonné le volet Hongrie en débordant vers l'Ukraine occidentale, la zone transcarpatique frontalière avec la Hongrie, dans la mesure où je mène par ailleurs un travail de terrain ethnographique depuis des années dans cette zone et dans la minorité magyarophone de cette zone. Le choix des entretiens, dans mon cas, et je pense que nous avons assez discuté là-dessus, donc il est possible de généraliser ça à notre équipe tout entière, c'est fait par, par tâtonnement, par des tâtonnements qui sont plus familiers à l'ethnographe peut-être qu'à l'historien. Je veux dire, nous avons été parfois de personne à personne. Nous avons parfois demandé à des institutions locales de vouées à l'enregistrement de témoignages, des adresses. Ça m'est arrivé Hongrie, des adresses de déportés au goulag survivants, mais à partir de la première adresse que j'ai eue, il a été relativement facile, et j'ai préféré, en ce qui me concerne, parce que c'est un procédé plus familier pour moi en tant qu'ethnographe, de remonter de personne à personne dans la constitution du corpus. Donc je crois que nous avons utilisé plusieurs procédés pour constituer notre corpus. S'il est vrai que nous n'avons refusé aucun entretien, il est tout aussi vrai que les limites du projet nous ont peut-être empêchés jusqu'à maintenant, mais nous aimerions enrichir notre corpus, d'interroger. En ce qui me concerne, j'ai encore plusieurs adresses dans mes carnets et je sens l'urgence de les interroger. Quant à la durée, il y a des entretiens extrêmement longs. Peut-être l'entretien le plus long, c'est moi qui l'ai fait. Et c'est pas par hasard. Entre 4 et 5 heures. En général, les entretiens duraient entre, je pense, 2 et 3 heures. Il y a aussi un point que vous n'avez pas touché dans votre question, mais qui était pour moi très intéressant, qui était la question des langues. Je veux dire, dans mon cas, moi, la question ne se posait pas parce que je partageais la langue de mes interlocuteurs. Mais dans la constitution des corpus, par exemple, dans les pays baltes, où la question de la langue dans certains pays est une question politique d'une grande importance, et en Ukraine occidentale aussi, où les gens peuvent avoir des rapports différents avec le fait d'évoquer l'expérience du goulag en russe, alors que le russe est justement la langue dans laquelle cette expérience s'est déroulée. Donc cette question a donné lieu à quelques discussions et nous avons choisi la plupart du temps des solutions pragmatiques. Il y a eu des interlocuteurs baltiques qui ont choisi de parler en russe. Il y en a d'autres qui ne l'ont pas fait. Nous avons dans ce cas eu recours à des interprètes, des collègues locaux qui pour mener l'entretien ou servir d'interprète. Je n'ai pas eu à faire ça, mais effectivement dans les contextes comme l'Ukraine, notamment occidentale, et les pays baltes, cette question s'est posée aussi, et pour moi cette question était importante.
Non, juste pour la question de la langue, quand même, il y a eu très peu de cas où on a eu besoin d'avoir des collègues locaux. Enfin, on avait des collègues locaux, mais donc l'équipe, elle maîtrisait pratiquement toutes les langues, sauf le letton et l'estonien, sauf erreur. C'est les deux langues, mais donc du coup, effectivement, et c'était intéressant de voir, il y a eu des refus, effectivement, de parler russe parfois. Mais enfin, d'ailleurs, en général, ils n'avaient pas besoin de parler russe. Certains, effectivement. C'est arrivé rarement, mais certains sont passés d'une langue à l'autre pendant le récit. Et par exemple, certains, assez rares, mais passés au russe, au contraire, quand ils commençaient à parler de l'expérience de déportation, l'expérience du camp, par exemple, parce que c'était leur langue, c'était la langue du camp. Donc c'est effectivement c'est très riche comme matériau et la question de la langue était importante. Sinon, non, de ce que tu as dit, effectivement, moi aussi j'ai fait un entretien de 5 heures, donc on est à égalité. Mais là, on laissait vraiment la personne parler. Un seul point quand même, c'est un des gros regrets, c'est qu'exceptionnellement, après je passe à, sauf quelques cas, on n'est pas revenu voir la personne une deuxième fois. Ce qui pourtant, normalement, ou une troisième fois. C'est-à-dire que souvent, il y avait un entretien, ils nous racontaient leur récit, on aurait bien aimé pouvoir repartir sur d'autres questions. Et il y a peu de cas où on a pu faire ça, mais ce n'est pas du tout exclu. On a envie d'ailleurs de le faire à nouveau. Martha, tu voulais... Non.
Peut-être il est important d'ajouter quelque chose, parce que sinon vous pouvez imaginer que chacun travaille que sur les entretiens dont il comprend la langue. Oui. Chose qui était exactement ce qu'on ne voulait pas faire. Pour sortir de ce cadre strictement national... Presque tous connaissent quand même une ou deux langues, seulement Catherine Goussieff en connaît au moins 3-4. Mais donc, comment sortir de ce cadre national dû à la langue dans laquelle le témoin s'exprime? Et justement, on a pratiquement les deux tiers des entretiens sont traduits oralement parce qu'on a voulu garder l'oralité et la sonorité de ce témoignage et ne pas passer par l'écrit, chose que... souvent les historiens de l'histoire orale font, c'est-à-dire on transcrit et on traduit, tandis que grâce à notre collaboration avec RFI, on a pu utiliser les studios de RFI et les techniciens de RFI, et donc on a eu des interprètes en langue française et anglaise qui ont traduit la grande partie des entretiens en français et en anglais. Donc il est possible pour nous et pour vous, le jour où vous voulez partager avec nous ce corpus, écouter des entretiens. Et c'est là que, par exemple, avec Anne-Marie, on peut travailler, faire un travail sur les enfants sous goulag, parce qu'on peut écouter des entretiens en lituanien, en hongrois, en tchèque, et en lituanien, et ainsi de suite. Voilà.
Je ne sais pas s'il y a d'autres questions.
Oui, bonjour. Je me posais la question de savoir si vous avez pensé à interroger d'autres catégories de témoins sur cette question-là, comme des gens qui encadraient dans les camps ou des villageois autour des camps.
Alors, les villageois autour des camps, on l'a fait effectivement en Sibérie, autour des camps et dans les villages. Donc on en a fait, nous on a dû faire trop, enfin pas énorme, mais ça c'est un projet qu'on a d'ailleurs. On a fait des instituteurs, enfin une directrice d'école, qui était encore directrice, d'ailleurs, avec elle, j'ai 85 ans. Donc ça, c'est effectivement quelque chose qui est très intéressant. L'autre, alors, gardien de camp, c'est difficile. Alors, il y a des problèmes d'âge, hein. C'est-à-dire qu'effectivement, il fallait quand même qu'il soit jeune. On devient quand même pas gardien de camp quand on est adolescent. Et d'autre part, c'est quand même un peu plus difficile à identifier et à ce qu'il raconte. On a fait un entretien avec un gardien de camp, qui d'ailleurs, c'est le type d'entretien qui vous donne un peu la banalité du travail de gardien de camp. C'est-à-dire que pour lui, il y avait des prisonniers. Il ne savait pas d'ailleurs trop si c'était des politiques ou pas. Et on a un récit très intéressant d'ailleurs. Mais il était plus intéressé d'ailleurs par les bagarres entre les troupes gardiennes de camp qui étaient du service la police politique et de l'armée que à ce qui se passait vraiment dans le camp. Alors, son récit, c'était beaucoup plus les bagarres permanentes entre GPU, enfin NKVD, c'est après la guerre, donc MGB et MGB, enfin je ne sais plus quoi, les deux troupes, voilà. Et c'était un soldat, il avait fait son service dans le camp, voilà. Mais c'est effectivement quelque chose de fondamental. Et d'ailleurs, on a le projet maintenant de plus travailler sur l'entourage. Mais c'est des gens-là qui ont 85, 90 ans, parce que ça veut dire qu'en 1950, ils avaient 20 ans, quoi, donc au minimum. Donc c'est quand même... Là, on n'est plus d'enfants, il y en a de moins en moins. Il y a des témoignages en Russie là-dessus, mais c'est pas très fréquent. Mais c'est effectivement fondamental.
Je voulais juste ajouter que effectivement dans notre corpus c'est relativement peu présent, c'est effectivement une question qui nous intéresse beaucoup et il faut savoir que dans les pays concernés, faites par des historiens locaux, il existe des corpus de témoignages recueillis, conservés dans des conditions inégales, et patrimonialisé dans des conditions et suivant les règles inégales, mais dans lesquelles on trouve ce type de témoignages. En Hongrie, je connais des corpus de témoignages de non pas des gardiens du goulag, forcément, mais des gardiens, par exemple, des camps de travail de rééducation qui existent en Hongrie même. Et ce type de recueil de témoignages, en tout cas, existe, je pense, dans plusieurs pays au niveau local. Donc il est possible d'interroger éventuellement ce témoignage si nous nous intéressons effectivement aux effets de contraste et d'écho entre ces deux corpus.
Justement, pour rebondir sur ce que vous venez de dire, Anne-Marie Lossonchi, quelle suite voulez-vous donner au projet ?
Ben justement, je peux en parler. Donc on cherche, ce qu'on voudrait, c'est plus travailler justement la question du retour. Et donc de la réinsertion de ces populations. Alors c'est présent dans les entretiens, mais ça, quand je disais de répéter des entretiens, c'est quand même pour plus travailler ça. La question de la réinsertion, une fois qu'ils ont été libérés, de la permanence de la surveillance, de la permanence du stigma. On a eu dans les témoignages des situations très variées, mais là, il faudra effectivement travailler sur les instituteurs qui voyaient arriver ces enfants de Sibérie. Est-ce qu'ils savaient pourquoi ? On sait, par exemple, que dans les périodes de crise, en particulier en 1956, à partir du moment où il y a les événements de Pologne, puis de Hongrie, la police va rechercher dans ses fichiers ces gens qui viennent d'ailleurs, parce qu'ils pensent que c'est de là que peuvent apparaître les troubles. Et donc on voudrait vraiment... comprendre comment se constituent ces sociétés après les libérations en Lituanie, en Pologne, etc. Et quelles marques, finalement, il y a des gens qui ont été témoins mais qui n'ont pas été déportés, et d'autres qui ont été déportés et qui reviennent. On sait par les témoignages que parfois ils sont très mal reçus parce qu'ils viennent alors que les moyens ne sont pas, etc. Parfois, donc, la police continue à les surveiller. Parfois, au contraire, ils se réinsèrent. Et donc, c'est sur toute cette question du silence, du retour, de la surveillance au retour ou pas, qu'on souhaite travailler. Voilà.
Alors, je vous propose qu'on prenne une petite pause de 10-15 minutes. Si vous voulez prendre un café juste à l'extérieur de l'auditorium, c'est possible. Et voilà, on se retrouve dans 10 minutes.